France Culture.
On fait le point sur l'info, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Et nous serons dès le début de ce journal au Canada pour constater la victoire aux élections législatives du Premier ministre sortant Marc Carney et de son parti libéral. Un résultat inespéré il y a encore quelques mois à peine pour cet illustre inconnu devenu l'homme providentiel et qui s'explique en très grande partie, on le verra, par les coups de boutoir d'un certain Donald Trump. On parlera aussi de la menace que fait peser l'administration américaine justement sur la lutte contre le sida. On poursuivra également sur les révélations depuis hier de cette vaste enquête autour de l'influence chinoise dans le monde. On détaillera un principe de justice dans un procès de recruteurs de djihadistes présumés organisés en France. Enfin, on parlera constellation de satellites dans un espace, l'orbite terrestre basse, déjà très occupée. Dans un pays hanté par les menaces d'annexion de son voisin et d'ores et déjà meurtri par des droits de douane hérétiques, qui de mieux qu'un gestionnaire de crise pour faire face aux attaques de l'impérieux Donald Trump. Et en croire les résultats encore provisoires des élections organisées au Canada, c'est donc le choix qu'ont fait hier les électeurs en reconduisant le Premier ministre Marc Carney, certes novice en politique, assez peu charismatique, mais un économiste reconnu qui maîtrise ses dossiers et dont l'aura rassurante de technocrate compétent faisait au fond de lui Étienne Monin l'homme de la situation pour piloter un pays plongé aujourd'hui dans une crise inédite.
Plus qu'un programme ou qu'un parti, c'est une personnalité qui a été élue. Les Canadiens ont désigné celui qu'ils considéraient comme le meilleur opposant à Donald Trump dans un contexte d'angoisse quasi existentielle. Marc Carney a mis en avant sa grande expérience dans la gestion des crises économiques. Il promet maintenant de renforcer les liens du Canada avec l'Europe et l'Asie. La page de l'Amérique se tourne, a-t-il dit, après sa victoire devant les militants.
Notre vieille relation avec les États-Unis, notre relation basée sur une intégration stable est terminée. Ce sont des tragédies, mais c'est aussi notre nouvelle réalité. On a dépassé le choc de la trahison américaine, mais nous ne devrions jamais oublier la leçon.
Le Premier ministre va devoir maintenant gouverner sans majorité. Il est talonné par le Parti conservateur qui a progressé dans ces élections. Le pays paraît polarisé, dominé par deux partis principaux, avec une gauche qui s'effondre et des nationalistes québécois affaiblis qui se préparent à jouer le rôle de pivot au Parlement.
Alors, 100 jours tout pile après son investiture à la Maison-Blanche, 100 jours de chaos et de colère qui lui ont valu non seulement de faire élire son plus fervent opposant de l'autre côté de la frontière, mais aussi d'être pointé du doigt dans un rapport au vitriol publié aujourd'hui par Amnesty sur les menaces croissantes que le président américain fait peser sur le système mondial de défense des droits humains, sans compter des sondages d'opinion qui tous s'accordent pour constater une glissade particulièrement brutale de sa cote de confiance. Donald Trump espère malgré tout retrouver ce soir l'espace d'un meeting, l'adulation sans réserve de ses partisans pour marquer cette étape symbolique de son second mandat. Le milliardaire républicain est attendu sur le lieu de l'un de ses derniers rassemblements de campagne à Warren dans le Michigan.
Suite des conclusions d'une vaste enquête internationale menée en collaboration avec un consortium de journalistes dont Radio France est partenaire sur la répression chinoise.
Répression orchestrée depuis Pékin sur tous les opposants au régime hors de ses frontières. Aujourd'hui, un deuxième volet vient révéler comment le fonctionnement parfois opaque d'Interpol, l'organisation internationale de police criminelle, permet à la Chine de rattraper certains critiques du régime, qu'il s'agisse d'officiels corrompus, d'hommes d'affaires ou de simples opposants. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Paul Charron, directeur du domaine renseignement, anticipation et stratégie d'influence de l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, et par ailleurs co-auteur d'un ouvrage intitulé « Les opérations d'influence chinoise, un moment machiavélien » publié l'an dernier aux éditions des Équateurs. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Cette vaste enquête que nous évoquions déjà hier nous révèle au fond la diversité des méthodes déployées aujourd'hui par la Chine pour traquer ses opposants. Et ce qui est intéressant, peut-être d'ailleurs plus encore que les pratiques utilisées qui étaient pour partie déjà connues, c'est de voir à quel point les opérations d'influence chinoises sont désormais généralisées.
Oui, elles sont généralisées à plus d'un titre. D'abord parce que les modes opératoires sont extrêmement larges, bien plus larges que dans le cas de la Russie, par exemple, notamment en raison des moyens financiers de la Chine, mais aussi parce que elles s'appliquent dans de très nombreux secteurs, en utilisant de très nombreux vecteurs différents. Elles touchent le monde politique, la culture, le sport. Voilà, il y a finalement aucun espace qui échappe aujourd'hui à ces opérations d'influence.
Dans vos travaux sur l'influence chinoise, vous êtes notamment penché sur les concepts de la pensée stratégique du pays qui permet de mieux comprendre donc comment ces opérations s'inscrivent dans un véritable système idéologique cohérent. Vous citez notamment la notion de front uni. De quoi s'agit-il exactement ?
Alors le front uni, c'est un concept qui vient de Lénine à l'origine et qui a été repris par Mao et appliqué en Chine. C'est même devenu un département du comité central, hein, du Parti communiste chinois. Et c'est donc à la fois un organe, si vous voulez, et un concept, et aussi un mode opératoire. Et ça consiste à faire taire, à empêcher la contestation du régime et des objectifs du parti. Donc il faut rallier au parti les gens qui sont à l'extérieur du parti. Donc ça veut dire les Chinois non membres du PCC en premier lieu, mais ensuite ça va au-delà puisque ça concerne la diaspora et même les sociétés d'accueil de ces diasporas, les autres sociétés où on va essayer d'aller chercher des relais qui vont à la fois diffuser la propagande du parti, donner une image positive de la Chine et éventuellement exercer parfois jusqu'à des pressions contre ceux qui en disent du mal, du point de vue du parti bien sûr.
Je l'évoquais en introduction, vous dites que cette nouvelle stratégie donc de la Chine définit un moment machiavélien au sens où elle aurait fait sienne la maxime bien connue de l'auteur du Prince, il est plus sûr d'être craint que d'être aimé. Est-ce que c'est une évolution récente dans l'histoire politique de la Chine ?
Alors, oui et non. Ça s'est fait, disons, à partir de la fin des années 2000, avec les notamment 2008 et les JO, ou l'organisation des JO à Pékin, où la Chine a commencé à adopter des modes beaucoup plus coercitifs dans son action extérieure en matière d'influence. L'explosion, la véritable montée en puissance s'est faite pendant la Covid, en fait, donc sous Xi Jinping, et principalement pendant la Covid. Et depuis, on assiste à une montée irrépressible, à beaucoup plus de moyens mis en œuvre, des moyens de plus en plus coercitifs, de plus en plus clandestins, de plus en plus sophistiqués. Voilà.
Ce qui frappe également dans cette enquête, c'est la forme d'attentisme, le rôle parfois trouble des autorités locales vis-à-vis de toutes ces opérations menées par la Chine contre ses dissidents, y compris d'ailleurs en France. À quel point l'influence de Pékin économique, notamment, constitue une limitation dans les moyens de lutte, voire carrément une incitation à fermer les yeux ?
Oui, alors les situations sont contrastées en fonction des pays. Il y a des pays qui sont véritablement sous la coupe de la Chine, notamment en Asie du Sud-Est, et qui vont avoir du mal à répondre aux pressions exercées par la Chine. Ailleurs, c'est variable. En Europe, la Chine a pu avoir beaucoup d'influence en utilisant ces moyens-là. Elle en a moins aujourd'hui. Et depuis, notamment la Covid, et puis un certain nombre d'études hein, qui ont paru, le travail des journalistes aussi, il y a eu une prise de conscience quand même des opérations menées par la Chine. Et l'Europe, et particulièrement la France, je dirais qu'ils sont plutôt en avance dans la lutte contre les opérations d'influence chinoise. Viginum, par exemple, donc qui est l'organe en France chargé de la lutte contre la désinformation, a été créé de manière très précoce en France par rapport au reste de l'Europe. Donc on est. La France constitue même un modèle de dans ce domaine pour tout un tas de pays dans le monde. Donc on peut pas dire qu'on soit véritablement en retard. Alors bien sûr, on n'est pas encore arrivé. C'est pas encore complètement satisfaisant parce que la Chine a de nombreux moyens pour faire pression. Elle a aussi de nombreux relais au sein des différentes sociétés européennes. Il faut encore être vigilant et consolider notre dispositif. Mais la France n'est pas véritablement en retard par rapport à ses voisins.
Et on terminera sur cette note positive. Merci Paul Charron, directeur du domaine renseignement, anticipation et stratégie d'influence de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Je rappelle le titre de l'ouvrage dont vous êtes l'un des co-auteurs, Les opérations d'influence chinoise, un moment machiavélien, publié l'an dernier aux éditions des Équateurs. Merci également à Loïs Guérin pour la préparation.
Le courant a été rétabli ce matin dans les majeures parties de l'Espagne et du Portugal.
Et ce au lendemain d'une gigantesque panne d'électricité qui a frappé toute la péninsule ibérique, un blackout total qui pendant plusieurs heures aura laissé flotter dans l'air une étrange ambiance de fin du monde, l'un de ces moments rares qui vous font vous sentir particulièrement vulnérable, d'autant plus que l'origine de cette défaillance demeure toujours inconnue. Seule certitude, les gestionnaires du réseau espagnol et portugais écartent d'ores et déjà la piste d'une cyberattaque. Sans transition, au même moment, en Floride, une fusée décollait avec à son bord les 27 premiers satellites du réseau Kuiper, une constellation destinée à fournir un service de connexion à Internet très haut débit sur Terre depuis l'espace. Véronique Roberotte, bonjour.
Bonjour.
Alors cet événement attendu de longue date est un programme initié en 2019 par le géant du e-commerce Amazon et son patron Jeff Bezos, qui depuis avait accumulé beaucoup de retard, mais surtout qui doit permettre à terme, Véronique, de concurrencer le service Starlink, c'est-à-dire le fournisseur d'accès Internet d'Elon Musk.
Ouais, le géant américain donc de l'e-commerce n'en fait pas mystère. Amazon compte bien à son tour étendre son empire en positionnant à terme plus de 3200 satellites à une altitude basse, donc qui se situerait autour des 600 km. Avec sa constellation Kuiper, Jeff Bezos entend ainsi donc concurrencer le service d'Internet Starlink à haut débit d'Elon Musk, avec ses 7000 satellites déployés eux aussi à basse altitude, autour des 450 km. Il faut la mise en orbite de près de 600 satellites pour pouvoir établir les premières connexions à Internet. Aussi, Amazon va à partir de maintenant enchaîner les lancements à un rythme très rapide. Il y est même contraint par le régulateur qui a donné son feu vert au projet, à condition de ne pas chômer. La moitié des 3200 satellites devront être mis en orbite durant, avant l'été même 2026. Pour respecter ces délais, à la fois de production de satellites et le renvoi dans l'espace, Amazon a investi plus de 10 milliards de dollars. Le problème, alors qu'il va se poser maintenant assez rapidement, avec la multiplication de ces constellations de satellites, c'est un sérieux risque d'embouteillage sur l'orbite basse, entre donc 400 et 600 km au-dessus de nos têtes. Embouteillage et collision à cause des débris spatiaux qui commencent à pulluler dans cette orbite basse. Ces débris entrent en collision avec des satellites qui deviennent des débris qui détruiront à leur tour des satellites, un encombrement qui pourrait même aller jusqu'à perturber des missions spatiales, cette basse orbite devenant dangereuse à traverser.
Merci Véronique Roberotte.
Midi passé de 42 minutes sur France Culture, la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
Un an après avoir condamné par défaut trois hauts responsables du régime syrien de Bachar el-Assad à la perpétuité, la cour d'assises de Paris juge à partir d'aujourd'hui un ancien rebelle salafiste pour complicité de crimes de guerre commis entre 2013 et 2016 en Syrie. Son nom, Majdi Nema, a 36 ans, cet ancien membre d'un groupe prônant la charia, Jaïch al-Islam, est soupçonné d'avoir enrôlé de jeunes adolescents. Il encourt 20 années de réclusion criminel. Alors s'il est jugé en France, c'est en vertu du principe dit de la compétence universelle, un principe que conteste en l'occurrence la défense de l'accusé, mais essentiel aux yeux des parties civiles, représentées notamment par l'avocat Marc Bailly. Il explique pourquoi à Florence Turm.
La compétence universelle qui a été créée en 2010 permet de poursuivre des personnes qui effectivement ne sont pas nationalisées françaises pour des crimes qui ont été commis en dehors de la France et contre des victimes qui ne sont pas françaises. Pour une raison simple, pour éviter l'impunité et pour éviter que la France devienne une terre d'asile de criminels de guerre en tout genre. La compétence universelle n'est possible que dans le cas où l'État en question sur lequel les faits ont été commis ne poursuit pas et que la Cour pénale internationale ne poursuit pas les faits. Et alors, c'est pas le premier procès en compétence universelle et pas le premier procès dans lequel des victimes où des témoins sont à l'étranger. Mais enfin, il y a une particularité, effectivement, dans ce procès, puisque d'abord, les victimes et les témoins ont subi des pressions et des menaces qui ont été objectivées tout au long de l'enquête qui a été menée en France. Et puis, aujourd'hui, avec les changements et la chute du régime de Bachar el-Assad, eh bien, un certain nombre de parties civiles, de témoins, ne veulent pas insulter l'avenir. Jaïch al-Islam était un groupe qui était très puissant, très organisé, très influent. Et il y a, effectivement, un aléa sur la venue d'un certain nombre de témoins qui ont tout simplement peur.
Et je précise en effet, on l'a appris ce matin, que plusieurs témoins cités ont fait savoir qu'ils ne se présenteraient pas à l'audience. Le procès est prévu pour durer un mois.
François Fillon est attendu à la cour d'appel de Paris.
8 ans après la révélation de l'affaire des emplois fictifs de son épouse, Pénélope, fatale à ses ambitions présidentielles, l'ancien premier ministre âgé de 71 ans est de retour devant la justice qui devra trancher sur la peine qui doit lui être infligée. Manuel Valls arrivera ce soir en Nouvelle-Calédonie, 3e visite sur place en 2 mois du ministre des Outre-mer. L'objectif reste toujours le même, discuter avec toutes les forces politiques en présence dans l'espoir de trouver un accord sur l'avenir institutionnel de l'archipel. Ce qui s'annonce une fois de plus difficile et même incertain, Stéphane Robert, tant les positions défendues par les radicaux de chaque camp, indépendantistes et loyalistes, sont éloignées les unes des autres.
Manuel Valls retourne en Nouvelle-Calédonie avec la ferme intention de faire aboutir les discussions entamées il y a maintenant 3 mois, quand il avait invité tous les protagonistes à Paris début février. Depuis, il est allé 2 fois sur place, organisant de façon inédite des réunions entre indépendantistes, non-indépendantistes et l'État français. Au cours de son dernier déplacement, il a même réussi à faire signer par tout le monde un document commun évoquant l'ouverture de possibles négociations. Compte tenu des tensions encore très fortes après les émeutes du printemps 2024, c'était inespéré. Le ministre entend donc poursuivre sur sa lancée. Un accord est indispensable, a-t-il déclaré, avant de monter dans l'avion qui l'emmène à Nouméa. Chacun doit faire un pas l'un vers l'autre. S'il n'y a pas d'accord, l'incertitude économique et politique peut conduire à un nouveau désastre et à la guerre civile, a-t-il encore mis en garde. Ce qui doit être négocié, c'est la nature du lien entre la France et la Nouvelle-Calédonie, car les accords de Nouméa sont arrivés à échéance. Mais ça coince. Sur la question de l'autodétermination notamment, c'est-à-dire la possibilité de reposer un jour la question de l'indépendance à la population, les non-indépendantistes les plus intransigeants ne veulent pas en entendre parler. Or, c'est une condition sine qua non pour les indépendantistes. Et il y a plusieurs autres points qui font dissensus et constituent pour chacun une ligne rouge. À ce stade, et compte tenu de ces divergences, on voit mal comment un accord pourrait intervenir en quelques jours. Le ministre a toutefois montré ces dernières semaines qu'il savait faire avancer ce dossier épineux et compliqué.
On évoquait en début de ce journal les coups de boutoir de Donald Trump. Depuis son retour à la Maison-Blanche, l'administration républicaine a massivement taillé dans l'aide internationale. Et c'est le cas en particulier s'agissant de la suspension de l'essentiel de ses subventions accordées jusqu'à présent à la lutte contre le sida, soit près de 60% des financements mondiaux, d'où le rassemblement organisé aujourd'hui devant l'ambassade américaine par des militants de l'association française AIDS, emblématique de la lutte contre le VIH. Tara Schlegel, bonjour.
Bonjour Thomas.
Vous étiez donc sur place ce matin à la manifestation.
Alors il nous reste 3 minutes de brief, je vais essayer d'être un peu rapide sur la fin.
Zoé Dehaide donne les dernières instructions aux 34 militants près de la place de la Concorde.
Il y a Eulalie qui est en distance, qui sera en lien avec les avocats et avec vos proches en cas d'interpellation.
Le die-in comporte forcément un risque d'arrestation, comme le dit Zoé, hein, juste devant l'ambassade américaine, interdiction de mettre les t-shirts aide avant d'être sur place. Les militants s'allongent par terre, on dessine leur corps à la craie et puis ils bloquent la circulation 5 petites minutes. Débriefing, ensuite aux Tuileries, où les organisateurs sont là, mais également de simples anonymes.
Je peux vous demander, madame,
je suis Christine, volontaire depuis 23 ans, chez AIDS Paris Centre. C'était très important ce matin de faire cela, parce que la situation est vraiment difficile, mais préoccupante. Moi, juste participer, sinon moi je vais à l'hôpital 2 fois par mois voir les personnes hospitalisées.
Quand même des malades du VIH
ceux qui le découvrent, oui, bien sûr, je le découvre. Un peu tardivement, il faut qu'ils soient soignés.
Donc moi je m'appelle Irène, je suis un médecin du monde. Effectivement, ce matin il y a beaucoup de colère face au cynisme, comme le disait Jean, et d'inquiétude en fait, vraiment, parce qu'on voit bien que l'épidémie remonte. Effectivement, il y a une espèce d'indifférence assez générale et ça provoque de la colère. On a l'impression de revenir dans les années 80 où on découvrait la maladie, mais par contre on ne va pas lâcher.
Comme l'expliquent ces militants de Médecins du Monde, de AIDS, de Coalition Plus, le gel des aides américaines impacte surtout les Suds, mais ne connaît pas de frontières. Il a déjà causé la mort de 40 000 personnes depuis janvier, dont 10 000 enfants. Ignace Alaoui est responsable chez Coalition Plus.
Avec les gels de l'aide étrangère américaine notamment, il y a à peu près 80% des programmes VIH dans le monde qui sont menacés. Donc quelque part, c'est toutes les avancées qu'on a pu avoir pendant les 20 dernières années qui sont déjà compromises, mais on a déjà observé des conséquences de ces coupes. Donc nous, on a fait une enquête au début du mois de février auprès de nos membres et de nos partenaires, et il y a environ 55% qui sont impactés. Des associations, nous on est un réseau international d'associations de lutte contre le VIH, d'associations communautaires, et il y a en fait la majorité de nos associations qui sont impactées par ces coupes-là, avec un peu moins de 2000 RH, donc 2000 ressources humaines en santé, donc des acteurs communautaires, des personnes qui vont donner leur traitement aux personnes, qui vont les accompagner vers le dépistage, etc., dont les postes sont suspendus et coupés.
Voilà, et l'action de ce matin visait à interpeller la France et les autres pays occidentaux pour qu'ils prennent le relais de l'aide américaine.
Merci Tara Schlegel. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Du soleil sur la majeure partie du pays, même si quelques rares averses orageuses sont encore à prévoir sur le massif central, le sud des Alpes et l'arrière-pays méditerranéen. Quant aux températures, elles seront comprises entre 18 et 25 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.